Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un artefact qui est déposé aux archives gay du Québec. Et c'est Ross Higgins, il y a plusieurs années, qui a porté mon attention à cet artefact en croyant que je pourrais en dire quelque chose. Donc, je dois faire au début une petite publicité pour le livre de Karim et de Frédéric parce qu'effectivement, mes recherches sur le livre ont pris la forme d'un essai qui est dans ce collectif d'une quarantaine de pages. Là où je regarde toutes les luttes intestines idéologiques, je ne veux pas faire ça avec vous aujourd'hui. Vous pouvez croire, je crois, que aussitôt qu'il y a un groupe militant, il y a des luttes à l'interne, des scissions, des trahisons et tout cela. Mais ce n'est pas ça vraiment que je veux faire avec vous. Je veux plutôt présenter le livre de bord dans son contexte. Et puis, je voudrais parler un peu de pourquoi je trouve ce livre intéressant. Oui, et là, c'est surtout à cause de la divergence un peu entre le discours public du FLH et ce que ses adhérents ont écrit ou la manière dont ils sont intervenus dans ce livre, qui nous dit beaucoup sur ces décalages qui existent souvent entre la direction d'un groupe et les personnes qui y adhèrent, oui, pour des raisons différentes. Donc, je reviendrai au livre, voilà, vous voyez, titre très bartésien, scripteur et lecteur, qui vous dit déjà quelque chose sur les personnes qui ont initié le livre, pas nécessairement les gens qui ont écrit dans le livre. Donc, Front de libération homosexuelle, nous sommes à l'époque des fronts, oui, ça veut dire que... Le Front de libération homosexuelle est fondé en 1971, donc un an après l'acte des mesures de guerre et évidemment la crise d'octobre. Et donc, le terme front est déjà, circule très bien à l'époque. Et c'est non seulement évidemment le FLQ, c'est le FLN au Vietnam, c'est l'époque des grandes manifestations contre la guerre au Vietnam. C'est non seulement le Vietnam, c'est en France aussi. Vous avez le FAR, hein, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui est né aussi après les événements de mai 68. Et donc, c'est toujours une question intéressante de prendre la mesure de l'influence qu'ont eu les mouvements français ici au Québec, versus, par exemple, les mouvements américains. Oui, parce qu'ici, à Columbia University, à la même époque, vous aviez le Gay Liberation Front. Oui. Donc, ça, c'est évidemment un volet de la naissance du FLH. L'autre, je ne crois pas qu'on peut le sous-estimer, c'est le féminisme de deuxième vague. Oui. Et... c'est intéressant parce que des fois, on a tendance à oublier qu'au début, le militantisme gay au Québec était très, très influencé par le mouvement féministe et qu'il y avait des femmes dans le FLH au début, comme il y avait des femmes dans l'ADGQ quelques années plus tard, au début. Et chaque fois, ça finit par un échec. Oui. Et donc, ça, c'est toute une autre présentation, c'est tout un champ qui est très intéressant. Pourquoi les femmes quittent-elles ces organisations? On voit à l'époque une question qui pourrait peut-être nous donner un début de réponse. Donc, ça, c'est un journal américain de l'époque, Every Woman, qui vient surtout de la tendance féministe séparatiste. Oui, mais avec cette pointe d'interrogation, are men people? Oui, et can women's liberation liberate men? Oui. Et donc, évidemment, dans un certain féminisme, il y a toujours cette prétention, oui, que le féminisme, c'est pas seulement pour les femmes, mais c'est pour toute l'humanité et que ça va libérer les hommes aussi. Mais lorsqu'on voit ce qui arrive dans le FLH, c'est surtout, si je fais le contraste entre le sujet que vous nous avez présenté sur la filiation, il y a très peu de soucis par les hommes qui fréquentent le local du FLH pour ces questions. Il y a tout de suite une espèce de vie de cruising et une vie nocturne qui s'installe et les femmes supportent mal, évidemment, cela. Et puis, il y a toute une ambiance chez les militants du mouvement qui rend très difficile la prise de parole par les femmes. Mais c'est un autre sujet. Mais il y avait un aspect très important de ce féminisme de deuxième vague qui a beaucoup influencé le FLH et tous les autres groupes à l'époque, c'est cette idée du « the personal is political ». Right? Et c'est une devise à double tranchant, je dirais. Parce que d'une part, c'était lancé contre la gauche traditionnelle, par exemple. Les gens qui disaient « bon, ce que vous faites chez vous, c'est de vos affaires. Quand vous êtes ici, vous faites de la politique. Oui? » quand nous descendons dans la rue pour faire une manif, c'est autour du coût de la vie ou c'est autour des heures de travail ou de la santé. Et évidemment, la question LGBTQ, comme on peut dire à l'époque, était quelque chose qui était souvent subordonné ou considéré comme sans pertinence. Ouais. Et donc, évidemment, cette devise conteste cette idée. Mais à l'époque, c'est non seulement les groupes féministes, c'est non seulement le FLH, il y a une croissance énorme à la même époque du mouvement marxiste-léniniste ici au Québec, avec les groupes comme le Parti communiste du Canada, marxiste-léniniste, En lutte, il y avait aussi le Parti communiste du Canada, marxiste-léniniste, il y avait des journaux comme La Forge, comme En lutte. Et là, c'était plutôt le contraire, c'était souvent inspiré par la révolution culturelle en Chine, où le personnel est devenu politique dans l'autre sens, dans le sens qu'il n'y avait aucun droit à l'intimité. Il n'y avait pas... toute la vie d'une personne était d'une certaine façon exposée pour être jugée. Et effectivement, dans le FLH, lorsqu'on avait des assemblées, l'assemblée était toujours divisée en deux parties, une partie affaires et une partie autocritique. Vous voyez? Et donc, c'était encore une raison, je crois, pour la vie assez brève du FLH. Donc, je vais juste continuer un peu avec mon contexte. C'est qui sont les prédécesseurs de ces mouvements de gay liberation qui surgissent au début des années 70. Aux États-Unis, encore, on a quelques modèles. On a le Mattachine Society, et ça, c'est un dépliant de la Mattachine Society. On est tous des girafes ou des zèbres. c'est ça. Donc, ici, c'est une orientation qui mise sur la respectabilité, sur la décriminalisation surtout. Hein, ça veut dire qu'on voit et on revoit aujourd'hui même des lois dans les États, aux États-Unis, au Canada, où l'homosexualité est criminalisée. Et c'est parce qu'on croit que des personnes qui sont comme ça sont des déviants, sont des malades. Je ne vous dis rien de nouveau. Et alors, la campagne de la Mattachine, c'est vraiment que ces gens ont droit à leur dignité, hein, qu'ils ont droit comme être humain à être respectés et qu'il n'y a pas de place pour des lois qui criminalisent un comportement qui est sans victime. C'est comme ça qu'on le présente et ainsi de suite. Du côté des femmes, il y a un peu la même chose, « The Daughters of Bilitis ». Et encore une fois, ce qui est intéressant, on va voir ça un peu plus tard, c'est le recours qu'on a souvent au modèle de l'Antiquité ou du classicisme. Oui, parce qu'on a tendance à cette époque à faire une lecture de l'Antiquité comme une époque qui, où l'homosexualité ou l'amour entre des personnes du même sexe, intergénérationnel ou non, avait quelque chose de noble. Oui. Et donc, on est très loin du discours d'aujourd'hui, je dirais comme ça. Alors, voilà « The Daughters of Bilitis ». Au Québec, à la même époque, oui, je devrais ajouter Arcadie, évidemment, en France, qui avait eu ses lecteurs ici au Québec. Oui, et Arcadie était à peu près dans la même orientation que The Matachine Society. Oui, c'est ça. Mais au Québec, on avait une revue, Manise, oui, et Manise était peut-être la revue de la contre-culture au Québec. Il y en avait d'autres, surtout, oui, il n'y a pas de question, mais par la diffusion, par l'étendue des sujets, c'est vraiment, je crois, on peut dire que c'est la principale revue de la contre-culture au Québec. La contre-culture, c'est un mot, je ne veux pas prendre le temps de parler d'un mot qui est étudié pendant 500 pages ici, mais je dirais que ce qui est intéressant dans le cas du Québec, c'est que les gens, lorsqu'ils écrivent dans les articles portant sur l'homosexualité, font une distinction entre la contre-culture et l'underground. Mm. Oui, parce que, bon, vous connaissez tout... Les Nuits de l'Underground de Marie-Claire Blais. Mais la question pour ces gens, c'est que est-ce que c'est vraiment mieux dans l'underground? Oui? Ça veut dire dans un certain réseau de bars et de clubs et à Montréal. Et la réponse est toujours non. Oui? Ça veut dire que l'underground est aussi homophobe, aussi sexiste que la société dans l'ensemble, mais avec un autre costume, hein, je dirais comme ça. Donc, la question est toujours, on ne peut pas se fier à l'underground comme un espace d'émancipation, il faut créer nos propres espaces. Oui? Donc, Mémise, dans ses trois premiers numéros, a des articles très importants sur l'émergence ou la nécessité de l'émergence d'un mouvement gay. Et donc, dans le premier numéro, il y a un article sur l'industrie du cinéma porno gay à Los Angeles. Assez étonnant, mais voilà. Mais dans le deuxième, on a déjà ce manifeste du Front de libération homosexuelle au féminin. C'était corrigé après, c'était drôle. Mais, et des articles, par exemple, pour un front gay à Montréal. Et vous pouvez lire, c'est Gilles-Hugues Yvonne de Maugincourt. C'est pas la duchesse de Langeais, mais à peu près. Oui. Et qui donne la motivation, pourquoi il faut ça. Mais en même temps, vous avez un texte qui est publié à San Francisco, The Gay Manifesto de Carl Whitman. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est dans le numéro 3 de Mémise. On en fait la traduction. Oui? Et ce texte est très intéressant et je dirais, pour être plus précis, au lieu de parler de traduction, on peut parler plutôt de tradaptation, parce que le texte n'est pas traduit de manière littérale. On prend beaucoup de liberté avec le texte pour l'adapter à la situation québécoise. Donc, par exemple, au début de ce texte, Carl Whitman est très catégorique. Il dit que ce qu'on appelle le ghetto, il est écrit de San Francisco à peu près, c'est plutôt un lieu de refuge. Hein, ça veut dire qu'il parle de comment les gens viennent de partout aux États-Unis pour trouver du refuge, oui, dans ce qu'on appelle le ghetto de San Francisco. Oui? Et sa vision de la vie ou de la scission entre le monde straight et le monde gay est beaucoup plus manichéenne que celle que nous allons trouver dans l'adaptation québécoise, qui prend plutôt la position que ce qu'il faut, c'est une harmonisation de ces deux mondes. Il mise beaucoup sur l'authenticité. Hein. Ça veut dire que le problème, c'est que les gays sont contraints à se cacher sous des performances qui ne sont pas authentiques. Oui. Mais on dit que si les hétérosexuels vont accepter les gays lorsqu'ils sont ce qu'ils sont. C'est évidemment, 50 ans plus tard, il y a beaucoup à dire sur ça. Mais c'était un peu comme ça. Et puis, sur la question des solidarités, le manifeste de San Francisco parle de solidarité entre les gays, les chicanos et les noirs. Ici, on l'adapte et on parle de solidarité entre les gays, les Indiens et les Esquimaux. Donc, vous avez un autre article qui annonce la naissance du FLH. C'est dans la revue Le Tiers. Oui. Et puis, voici le prospectus, si je peux dire comme ça, du FLH. Et il y a un formulaire de cotisation en même temps. Donc, il y a quelques conditions pour adhérer, un âge minimum, évidemment. C'est pas très cher, même à l'époque. Mais c'est un outil militant qui n'existe plus, c'est le Gestetner. Et les gens d'un certain âge vont se souvenir de cette machine qui pouvait produire des choses comme ça à bas prix et assez bon marché. Donc, avant de procéder au livre, résumons un peu les tendances. Donc, vous avez la tendance classiciste, comme je disais, qui est... et donc, lorsqu'on regarde le livre de bord, on voit qu'il y a plusieurs citations des livres de Gide et de Cocteau, des autres qui ont eu eux-mêmes un certain intérêt certain pour le classicisme. C'est un courant qui est très présent dans le livre, qui, d'une certaine façon, parle de l'éducation classique qu'ont reçu les gens, même quand les livres étaient interdits, ils les ont lus. Ça, c'est clair. Avec la Deuxième Guerre mondiale, le livre français est devenu beaucoup plus disponible au Québec qu'il était avant. Oui. Il y a une autre tendance qui est un peu la critique de la psychanalyse de l'époque. Évidemment, dans la psychanalyse un peu populiste ou populaire à l'époque, c'est la mère qui sort comme la grande méchante. Oui, c'est toujours la faute de la mère. Et donc, il y a un petit poème dans le livre comme ça. Ma mère m'a... Elle s'était écrit en anglais. Donc, my mother made me a homosexual. If I give her the wool, will she make me one too? Et donc, il y a cette tendance qui est une espèce de critique du discours psychanalytique culpabilisant de la mère qui insiste sur la normalité, hein, ou la normativité. Et puis, il y avait la tendance militante. Ça, c'est évidemment, ça, c'est sexualité et lutte des classes. C'était un livre qui est sorti en Allemagne après les événements de 68, mais il y en a beaucoup ici en français, en anglais, et il y a cette tendance qui est représentée. Malheureusement, le FLH n'a duré qu'un an à peu près. Hein? Et je dirais que l'événement qui a provoqué l'effondrement du FLH, c'était la descente. Il y avait une descente lors de la crémaillère. Oui, on fêtait l'ouverture d'un nouveau local du groupe et la police est venue. 40 personnes ont été arrêtées. On a beaucoup de témoignages de l'époque de l'humiliation subies par les gens qui ont été arrêtés, qui ont été tassés dans les cellules, dans la prison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans une seule, dénoncés en public, etc. Et ce n'était pas la réaction qu'on voyait à Stonewall, quelques années plus tôt, où les drag queens, surtout de couleur, ont pris la bataille avec la police pour créer un événement qui marque symboliquement le début du mouvement homosexuel de libération moderne. Ici, c'est plutôt le contraire. Les gens se sont dispersés, il n'y avait plus de cotisations et l'organisation a été obligée de fermer les portes, malheureusement. Donc, ça explique pourquoi, dans le cahier, qui est le livre de bord, il y a 200 pages, mais à peine une centaine sont remplies, parce que la FLH n'a pas eu la chance d'exister assez de temps pour remplir ce livre. Donc, à l'intérieur, on a toutes sortes d'intervention. Il y a des textes, il y a des poèmes, il y a des dessins, il y a toutes sortes de choses, c'est vraiment mêlé. Et le livre de bord était mis à la disposition de tout le monde dans le local du FLH. Donc les gens pouvaient venir, ils pouvaient contribuer à leur guise. Et donc, c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde les contributions écrites, on voit qu'il y a des registres de langage très variés qu'on y trouve. Ça veut dire qu'il y a des gens qui manifestement sont formés, sont à l'université, au collège classique. Il y a des gens qui écrivent en joual. Mais là, c'est un choix idéologique et on ne sait pas trop. Et puis, il y en a d'autres qui ont manifestement des niveaux de scolarisation plus bas. Oui, ça veut dire beaucoup d'erreurs de grammaire ou de syntaxe, d'orthographe, qui ne peuvent pas être assimilées au joual, par exemple, ou à autre chose comme ça. Donc, encore une fois, des témoins de l'époque nous disent que c'était une occasion en or pour les gens, ça veut dire pour le membre ordinaire de l'association de s'exprimer. Surtout, disait un, parce que lors des assemblées, c'était une certaine couche qui prenait tout le temps et toute la parole. Oui. Donc, vous voyez, par exemple, un beau dessin, hommage à la permanence. Et on ne sait pas trop si c'est satirique ou si c'est vraiment pour de vrai, mais évidemment, la permanence, c'est les gens qui sont au local à des heures régulières pour accueillir les gens. C'est pas nécessairement les gens qui ont mené les comités ou qui siégeaient sur le comité exécutif. Donc, il y avait des tensions entre ces deux groupes. Mais voyons ce civisme de la permanence. Mais il y avait, comme je disais, effectivement, des conflits. Donc, voici une intervention de quelqu'un. Et ce qu'il faut au groupe, après 2 mois d'observation, ce sont des fils de cultivateurs sans raffinement, qui n'ont pas peur de retrousser les manches, et non des fils à papa satisfaits d'eux-mêmes qui se conduisent en enfants de cœur après la grande messe. Oui? Donc, c'est le genre de débat qui a lieu dans tous les groupuscules de l'époque dite de gauche. Oui? Ça veut dire que les gens qui s'annoncent comme des militants prolétaires, mais qui viennent d'autrement ou ailleurs, et c'est un peu, dans parti pris, on trouve la même chose quelques années plus tôt et ailleurs. Oui? Et puis, quelqu'un a été même inspiré d'écrire un petit poème à ce sujet. Qu'étaine roucoulant, snob asséché, hippie décoloré, chat et chien fidèle à la prochaine foire. Donc, il y a beaucoup de créativité dans le livre de bord. C'est pour ça que je l'adore. Il y a évidemment l'influence psychédélique à l'époque est très clair. On a beaucoup de dessins comme ça. Pour donner une petite idée, des graffitis aussi. Et des graffitis qui misent beaucoup, ça veut dire que c'est clair que la direction du FLH, c'était ce qu'on peut appeler des hommes gays, avec une certaine éducation, une certaine formation, mais on ne peut pas dire la même chose des membres. Il y avait un peu de tout, et donc ce qui est intéressant dans le livre, c'est que le genderfuck, comme on disait à l'époque, est assez prééminent. Oui, donc, on a ces graffitis comme ça. J'aime les femmes. Et j'aime les hommes. Mais les images sont plutôt mélangées. Donc, il y a toutes sortes de dessins comme ça. Et il y a même Jésus-Christ Superstar. Donc, il y avait, quant aux langues, il y en avait trois. C'est ça qui est intéressant. Il y avait du français, évidemment. Il y avait de l'anglais, mais aussi de l'allemand. Donc, il y avait une ou deux personnes qui contribuent tout le temps en allemand, ce qui est drôle. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que on connaît tous et toutes la pièce de Michel Tremblay, Hosanna, qui sort en 1973. Donc, mais déjà dans le livre de bord, on a des dessins. Donc évidemment, la figure de Cléopâtre jouée par Elizabeth Taylor a déjà eu une circulation certaine dans le milieu gay. Et donc, on voit ça déjà dans le livre de bord en 71. Pas seulement dans la pièce de Tremblay. Alors, je vais conclure parce que je vais laisser du temps. Après tout, c'était quoi le FLH et le livre de bord? Je crois que ce poème, aujourd'hui on dirait une safe space. C'est un peu ça l'idée, mais je suis arrivé au FLH, j'ai fait un peu de ménage. J'étais calme, si calme. C'est incroyable, j'étais seul là, je suis là encore. J'ai lu ce bouquin, je l'aime bien. La radio joue. Malgré ses commanditaires stupides, je me sens bien. J'aimerais posséder cette paix un peu plus souvent. Elle me relaxe, elle me fait du bien. J'écoute la musique et la radio, du piano, de beaux arpèges, une mélodie d'antan, une autre. J'aime la vie. C'est un combat, un challenge si merveilleux, notre bien le plus précieux. Et donc c'est intéressant que c'est un peu l'ambiance que la permanence voulait donner au FLH, et c'est évident que par le livre de bord, il y avait des gens qui en profitaient, hein, pour qui c'était quand même quelque chose d'assez important. Mais je vais rester là.
Merci beaucoup.